Bonjour à tous. Le gouvernement promet une baisse des impôts pour les contribuables les moins fortunés. Mais on va voir que de nombreux Français réussissent toujours à ne pas en payer des impôts en cachant leur argent à l'étranger. Nous vous l'avions révélé en travaillant sur les Dubai Papers, une fuite de documents que nous avions analysé avec nos confrères de l'Obs. Bonjour Abdelhakel Idrissi.
Bonjour.
On va donc réécouter votre enquête et puis nous réentendrons ensuite Maxime Renahi pour le compte de la DGSE. Lui a espionné des sociétés financières qui l'emploient à Jersey et au Luxembourg, et il nous racontera donc comment il procédait pour leur dérober des informations.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Merci, monsieur le député, de m'avoir permis de le dire devant la représentation nationale.
Voilà, vous avez évidemment reconnu Jérôme Cahuzac, l'ex-ministre délégué au budget, affirmé qu'il n'avait pas de compte caché. C'était en décembre 2012 et la suite, on la connaît. Il y a ensuite eu les Panama Papers, la cellule de régularisation de Bercy et l'échange d'informations sur les détenteurs de comptes bancaires. Mais on va voir que malgré tout ça, eh bien tout continue comme avant. Et ce qui nous permet de le dire, Abdelhakel Idrissi, c'est ce qu'on appelle les Dubai Papers. Ce sont des données qui ont fuité d'une société qui s'appelle Elin et que nous avons patiemment épluché. Alors pour commencer, expliquez-nous, Elin c'est quoi précisément ?
Eh bien, c'est une société financière créée en 2007 dans une zone franche à Ras El Khaimah, aux Émirats Arabes Unis. Et à sa tête, on retrouve deux frères franco-belges, des princes, Henri et Emmanuel de Croy, ainsi qu'un ancien banquier français, Bernard Voisan.
Et qu'est-ce qu'ils font à Elin, ces dirigeants ?
Ils gèrent ce qui ressemble clairement à une vaste entreprise d'évasion fiscale. Et Henri de Croy apparaît comme l'homme orchestre de cette nébuleuse. On retrouve sa trace partout dans les Dubai Papers. Il rencontre les clients, il envoie des ordres aux salariés et il ne cesse de demander des comptes.
Mais son travail, ça consiste en quoi précisément ?
Eh bien, essentiellement, il crée des sociétés offshore. Elin gérait ensuite ces sociétés pour le compte de ses clients, car eux ne souhaitaient pas apparaître comme bénéficiaires de ces sociétés, ni des comptes bancaires qui étaient rattachés.
Et pourquoi ?
Eh bien parce qu'ils utilisent souvent les services d'Elin pour cacher de l'argent au fisc français. Et parmi ces clients, on trouve d'ailleurs plusieurs dizaines de Français.
Bon, et on trouve qui alors, par exemple ?
Alors pour schématiser, on peut dire qu'il y a deux catégories de clients. La première regroupe les héritiers, des Français, chirurgiens, historiens, fonctionnaires, qui ont à un moment hérité de sommes d'argent non déclarées de la part de leurs parents ou de proches. Souvent, cet argent était planqué en Suisse depuis de nombreuses années. C'est le cas d'André. Il a accepté de témoigner anonymement. On a donc transformé sa voix. Sa famille avait 1 million d'euros cachés à l'étranger.
J'avais connaissance de l'existence de cette somme en Suisse qui remontait à plusieurs décennies, 1930-1939. C'était une réserve au cas où, c'est comme ça en tout cas, que ça avait été constitué. C'était quelque chose dont on ne parlait pas à l'extérieur. Et on n'en parlait pas non plus entre nous. C'était le meilleur moyen de rester discret sur le sujet.
Ouais, c'était donc un secret. Et au début, c'est son père qui gérait cet argent.
C'est ça. En fait, ce n'est que plus tard qu'André apprend ce qu'il y a précisément sur le compte et comment il fonctionne.
En 2010, mon père, qui était sur la dernière ligne droite de sa vie, m'en a révélé l'existence de manière plus précise, sur l'endroit où les fonds étaient gérés et sur le montant. Et donc, en 2010, il m'a donné un pouvoir pour me rendre dans l'établissement bancaire qui détenait ces fonds et pour que ces fonds soient versés sur une structure à constituer.
Une structure à constituer, c'est-à-dire ?
Eh bien, une société offshore, par exemple. C'est elle qui va finalement détenir le compte bancaire. Mais il existe d'autres formules encore plus opaques. Ce sont les trusts. C'est un outil juridique dans lequel on met des actifs, de l'immobilier ou un compte bancaire. Et le bénéficiaire va en confier la gestion à une tierce personne. Comme ça, le nom du bénéficiaire réel n'apparaît jamais officiellement.
Et des héritiers de comptes cachés qui ont donc recours à ce type de structure, il y en a beaucoup ?
Oui, dans les données qu'on a analysées, beaucoup de clients sont dans la même situation qu'André. C'est par exemple le cas de cette femme. Elle aussi témoigne de façon anonyme, sa voix a donc également été modifiée. Elle m'a raconté le jour où elle a appris qu'elle héritait d'un compte en Suisse crédité de 25 millions de dollars.
J'apprends ça et on me dit, c'est compliqué, on me dit c'est comme si c'était de l'argent volé. Ça veut dire qu'il ne faut pas en parler, c'est ça mon histoire. Je vais mettre toute la famille en danger. Il faut que ça reste complètement secret. Cet argent, il faut pas y toucher. C'est comme si j'héritais de quelque chose et qu'on me dise qu'à cause de moi, on risque vraiment de, enfin, je sais pas, de ruiner tout ce secret qui tient quand même de génération en génération. Enfin, c'est assez stressant. Hein.
Ouais, c'est assez stressant, hein. Mais qu'est-ce qu'elle se dit au fond, Abdellah, quand elle apprend qu'elle a une telle fortune ?
Eh bien, elle a du mal à comprendre. Ça la démange de ne pas pouvoir utiliser cet argent. Quand on est le bénéficiaire de 25 millions de dollars à l'étranger, la tentation n'est jamais très loin.
Je me dis, je peux quand même en profiter un peu, ça serait sympa. C'est ce que je pense. En plus, au boulot, ça, je commence à en avoir marre de mes chefs. Et je me dis, pourquoi pas, je pourrais changer de vie. Je suis un peu euphorique, je me dis, je peux en profiter un peu, mais je me dis, c'est assez délirant, la réaction de ma famille.
Oui, délirant parce qu'elle ne comprend pas qu'on laisse ainsi dormir autant d'argent.
Oui, bon, donc elle est dans la catégorie, hein, on l'a compris, des héritiers de comptes à l'étranger. Mais vous disiez qu'il existait une deuxième catégorie des clients d'Ela.
Oui, on a aussi trouvé dans les Dubai Papers plusieurs dizaines de chefs d'entreprise, plutôt des PME, des consultants dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, des vendeurs de matelas, une entreprise qui vend des produits d'hygiène, d'autres font dans le transport de carburant au Niger.
Oui, d'accord, donc on a bien deux profils de clients. Maintenant, ces clients, Abdellah, comment est-ce qu'ils entrent en contact avec Elin ?
Et bien souvent, grâce à des rabatteurs. Dans les Dubai Papers, on les appelle les apporteurs d'affaires. Concrètement, il s'agit de banquiers, d'experts comptables, de notaires ou encore d'avocats qui présentent leurs clients à Elin. L'un d'eux a accepté de nous parler, un ancien employé de la banque Lazare. Il explique qu'il n'a rien à se reprocher, mais a quand même demandé l'anonymat. Son histoire avec Elin a donc commencé en 2002.
J'ai été contacté par le groupe Elin, qui m'ont fait part en fait de leur vaste campagne de prospection commerciale ici en France pour proposer les services de leur groupe auprès de conseils. Les conseils, ce sont essentiellement donc les avocats, les experts comptables, les notaires, les conseils en gestion de patrimoine, en mettant en avant la qualité en fait de leur gestion de fortune à partir de leur base en Suisse, sachant que les rendez-vous ont toujours eu lieu en fait dans un hôtel, l'hôtel Intercontinental à Neuilly.
À Neuilly, et ce qui se passe dans cet hôtel de Neuilly, Abdellah, c'est bien légal ça ?
Eh bien, a priori non. En France, quand on parle de démarchage d'entité suisse, ça rappelle forcément l'affaire UBS, dans laquelle la banque venait illégalement recruter en France des candidats à la fraude. D'ailleurs, sur les 4 clients présentés par cet apporteur d'affaires à Elin, 2 d'entre eux avaient des comptes non déclarés en Suisse. Et s'ils sont allés le voir, ce n'était pas pour les régulariser, mais bien pour savoir comment continuer à cacher leur argent.
Ces personnes-là n'ont pas voulu effectivement procéder à cette régularisation. Et donc, dans ces cas-là, elles m'ont demandé comment procéder. Et c'est à cette occasion-là donc, que j'ai été amené en fait, à les mettre en relation avec le groupe Elin. Après, je ne suis pas là pour gérer les affaires privées des clients. Ils sont majeurs et vaccinés, ils prennent leurs responsabilités.
Ouais, autrement dit, tout ce qui se passe après, ça ne le regarde pas. Hein. Et la plupart des intermédiaires fonctionnent comme ça ?
A priori, oui. C'est en tout cas comme ça que le raconte André, le détenteur d'un compte qu'on a entendu il y a quelques instants. Souvenez-vous, son père lui demande de prendre les choses en main lorsque le secret bancaire disparaît en Suisse. Il veut qu'on déplace l'argent pour qu'il reste accessible. André, lui, n'y connaît rien, alors il se renseigne et voilà ce qui se passe.
Je me suis rapproché d'un ami avocat auquel j'ai demandé comment je pouvais m'y prendre. Et c'est là qu'il m'a renvoyé vers un avocat parisien que j'ai donc consulté et qui m'a tout de suite renvoyé vers M. Emmanuel de Croy, installé à Genève. Et je suis allé voir cette personne. C'est lui qui me propose la solution de création d'un trust et de permettre au fond d'être hébergé et géré par ce trust en direct.
Ah oui, donc c'est un avocat français qui lui aurait indiqué la marche à suivre, qui l'aurait renvoyé donc sur Elin. On sait qui c'est cet avocat ?
Oui, il s'appelle Patrick Moshkovitch. C'est un intermédiaire important pour Elin puisqu'il lui a apporté une quinzaine de clients. Leur relation a commencé au début des années 2000 et on en trouve encore des traces en 2018.
Mais est-ce que lui, il a conscience à ce moment-là qu'il participe à des opérations d'évasion fiscale ?
Eh bien, d'après André, qu'on vient d'entendre, il semble que oui. Et on a trouvé d'ailleurs plusieurs mémos du cerveau d'Elin, Henri de Croy, qui raconte des rendez-vous des clients en présence de l'avocat parisien. Des mémos assez explicites comme celui-ci qui date de 2014.
J'ai rencontré Maître Moshkovitch et Madame X. Le nom ne m'a pas été donné. Elle a à peu près 100 000 euros dans une banque en Suisse. Ces mêmes 100 000 seront remis à Paris. Coût total de l'opération, 8%. C'est un peu juste, mais Maître Moshkovitch avait négocié cela.
Bon, et des avocats qui ramènent de la clientèle à L1, il y en a d'autres ?
Oui, il y a plusieurs autres avocats parisiens qui ont assisté à des réunions avec des clients et Henri de Croye. C'est le cas d'une avocate fiscaliste, ancienne inspectrice des impôts.
Oui.
Certains de ses clients, déjà détenteurs de comptes à l'étranger, se voyaient proposer des montages avec des sociétés aux îles Marshall, tout ça en présence de l'avocate.
Et elle aussi percevait une commission sur les clients qu'elle apportait ?
Si les clients signaient avec L1, oui, mais elle nous garantit que ses clients n'ont pas donné suite, contrairement à la quinzaine de clients de Patrick Moscovitch, l'avocat aurait touché des centaines de milliers d'euros. Ses commissions lui étaient versées sur des comptes bancaires aux Bahamas, aux Émirats, puis à Porto Rico. Des comptes ouverts au nom d'une société offshore dont il est le bénéficiaire économique réel.
Bon, et cet avocat, lui, il justifie ça comment ?
Alors, lui nous a expliqué qu'il était tenu au secret professionnel. Nous avons donc dialogué avec son avocat, Pierre-Olivier Sûr, et voici la réponse qu'il nous a transmise par mail. Nous l'avons également fait lire.
Concernant la totalité des faits que notre client aurait pu connaître, les flux financiers n'ont jamais franchi la frontière franco-suisse. En effet, ceux-ci étaient exclusivement en Suisse. Par ailleurs, les faits sont très anciens, plus de 20 ans en arrière, c'est-à-dire une période où les règles éthiques, financières, bancaires, fiscales et pénales étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors maintenant qu'on a vu qui étaient les clients de L1 et quel était le rôle des intermédiaires, on va voir maintenant comment la machine fonctionne de l'intérieur, Abdellah Al-Idrissi. Autrement dit, si je veux cacher de l'argent à l'étranger grâce à L1, je fais comment ?
Eh bien, pour les héritiers, c'est simple. Ils sont déjà assis sur une somme d'argent plus ou moins importante qui se trouve à l'étranger. En revanche, pour les chefs d'entreprise candidats à la fraude, il faut la constituer cette somme. Il faut donc transférer l'argent de l'entreprise qui se trouve en France vers le compte bancaire offshore que l'on va lui créer.
Et pour ça, on fait comment ?
Eh bien, l'un des moyens proposés par L1 n'est pas très original. Le groupe invente des prestations ou gonfle le prix de prestations réelles qui sont facturées à la société française. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans un mail adressé par Emmanuel de Croye à son frère Henri. Il décrit le schéma de fausses factures qu'il a prévu pour un client français.
Des réceptions, des montants facturés après déduction de frais de gestion fiscale, les soldes pourront être transférés à une structure écran. Cela peut être une société offshore ou, encore mieux, un trust.
Oui, un trust qui va donc recevoir l'argent et on prend une commission au passage.
Oui, 7%, c'est le tarif habituel d'L1, mais la répartition dépend aussi de l'apporteur. Chaque fausse facture, chaque virement fait en tout cas l'objet d'un partage.
Bon, et une fois que tout le monde est d'accord, donc que l'entreprise a ensuite réglé ses fausses factures, il va où ensuite cet argent ?
Alors, l'argent n'arrive pas directement de la société française à la société offshore. Il transite d'abord par un compte de passage où il est mélangé avec l'argent d'autres clients. Et il faut ensuite procéder à la répartition des sommes avant qu'il arrive finalement sur le compte bancaire du client, qui peut être soit aux Bahamas, aux Émirats ou encore à Porto Rico.
Non mais Abdellah, ce que vous venez de nous raconter, personne ne va y comprendre quoi que ce soit.
Mais justement, c'est le but du jeu, opacifier au maximum les transactions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne laisse pas les clients se facturer eux-mêmes les prestations depuis leur société offshore. C'est beaucoup trop risqué. On préfère faire passer cet argent par une tuyauterie très complexe.
Bon, et une fois que mon argent est donc enfin à l'abri sur mon compte offshore, si je veux en profiter ici en France, je fais comment ?
Eh bien là encore, c'est tout un circuit, mais un circuit qui a évolué. On est passé de la distribution simple d'argent liquide dans des enveloppes à un système de cartes beaucoup plus sophistiqué. C'est ce que nous raconte encore André. Une fois son trust créé par L1, son père a commencé à récupérer de l'argent. Et il nous explique comment ça se passait.
C'est très simple, il demandait le montant dont il souhaitait disposer et on lui indiquait l'endroit où une personne viendrait lui remettre une enveloppe avec les fonds dedans. Ensuite, mon père est décédé et donc j'ai été amené à le pratiquer de la même façon, une fois ou deux. Et puis, cette solution me convenait pas. C'était à chaque fois des sommes relativement importantes. Donc, j'ai demandé si d'autres solutions pouvaient être mises en place et on m'a proposé des cartes de retrait de cash qui permettent de tirer de l'argent depuis un distributeur.
Ah bon, on peut retirer de l'argent de la fraude depuis n'importe quel distributeur en France ?
Oui, ça paraît fou, hein, mais ça marche très bien. Elin utilisait soit des cartes anonymes, soit des cartes émises avec l'identité de prête-nom recruté dans son entourage, ou encore des cartes rechargeables qui sont encore plus difficiles à tracer car il s'agit de cartes qui ne sont même pas liées à un compte bancaire.
Mais ces cartes Elin, il les trouvait où ?
Eh bien, la société a eu recours à une banque située à Chypre, la FBME. Elle recevait des sommes depuis les comptes offshore des clients, puis une fois les virements effectués, Elin commandait des cartes anonymes à la banque et les remettait à ses clients. C'était parfait pour les besoins d'Elin, comme l'explique Henri de Creuil dans un mémo interne datant de 2010.
La carte est totalement anonyme, ce qui permet la plus grande discrétion. La procédure d'obtention est très simple. Il suffit de remplir un formulaire d'une page en choisissant le type de carte et la limite mensuelle autorisée. À réception du formulaire, la banque émet la carte dans les 5 jours ouvrables.
Ouais, donc avec cette banque chypriote, on a là un gisement de cartes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de ces cartes ?
Eh bien, ça dépend des cas. En France, des hommes de confiance d'Elin venaient régulièrement de Suisse ou des Émirats avec les cartes, puis retiraient de l'argent et le remettaient en main propre aux clients qui n'avaient pas besoin de grosses sommes. Mais lorsque les clients étaient demandeurs de beaucoup de cash, alors ils leur donnaient directement une carte. Cette procédure était très balisée. Ces hommes de confiance, on les appelle les distributeurs, et leur rôle était essentiel, comme le montre ce fax de 2015 envoyé par Henri de Creuil.
4 cartes sont sur le point d'être données aux distributeurs. Je vous rappelle qu'il faudra leur expliquer que lorsque les clients ont besoin de cash, ils doivent appeler le numéro anglais et on les recontactera. En fait, le distributeur, dont le nom ne peut pas être connu du client, prendra contact avec les clients quand il est prêt et leur donnera un lieu de rendez-vous.
Ah oui, c'est quasiment un fonctionnement d'agent secret, ça. On ne connaît pas celui qui vous remet l'argent ou la carte, vous devez l'appeler, c'est lui qui vous rappelle.
Oui, mais il faut bien comprendre que la hantise d'Henri de Creuil, c'est qu'un client français se fasse prendre avec l'une de ses cartes. Et il sait que si ça arrive, c'est toute l'organisation Elin et ses clients qui sont en danger. Écoutez précisément ce qu'il écrit à son bras droit, Bernard Roizan, en 2014.
Les cartes sont des systèmes dangereux. Il faut donc limiter l'émission de ces cartes à très peu d'utilisateurs et leur répéter sans arrêt que ce n'est que pour des sorties cash. Une fois de plus, les cartes sont notre tendon d'Achille. Je vous rappelle qu'il suffit qu'il y ait un seul client qui ait un problème pour qu'une demande administrative auprès de l'émetteur de la carte permette à l'administration fiscale et à la police de remonter à tout le monde.
Ouais, on est vraiment sur le qui-vive, hein, on l'entend. Et aujourd'hui, Abdelhak, ce système de cartes, il existe toujours ?
On a trouvé des documents indiquant clairement que des clients français utilisaient toujours des cartes anonymes en 2017, ce qui est très récent, sachant que les données auxquelles on a eu accès vont jusqu'en 2018.
Ouais, en tout cas, ce que ça démontre, tout ça, bah, c'est qu'on est très ingénieux chez Elin. On mélange les comptes pour brouiller les pistes, on utilise des cartes bancaires. Mais cette ingéniosité, elle ne s'arrête pas là, elle va encore plus loin.
Oui, on a même eu l'idée d'utiliser une fondation suisse pour abriter de l'argent de la fraude.
C'est-à-dire ?
Eh bien, la fondation en question, c'est Elysium, qui a été créée en 99. À sa tête, il y a une Britannique, Géraldine Whittaker, une proche d'Henri de Creuil, qui a été décorée de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy. Son œuvre caritative bénéficie d'une excellente notoriété. Écoutez ce qu'en dit Sylvain Besson, qui est journaliste pour le groupe de médias suisse Tamedia.
Cette fondation a donné énormément d'argent et les gens, j'allais dire, en fait, hallucinaient un petit peu sur les montants qui étaient investis par cette fondation pour organiser des concerts, la venue de cirques prestigieux, des troupes, donner de l'argent au théâtre. Donc c'était vraiment une fondation très, très, très généreuse. Et en fait, les gens, même à l'époque où elle donnait tout cet argent, se sont demandé un petit peu, mais au fond, comment font-ils, d'où ça vient, sans vraiment trouver la réponse à l'époque.
Et la réponse, on l'a aujourd'hui, Abdelhak ?
Ben oui, on l'a trouve dans les Dubai Papers et c'est justement Sylvain Besson qui nous la donne.
La fortune de cette fondation venait pas seulement de sa patronne, hein, c'est-à-dire Madame Géraldine Whittaker, et on a compris en fait que la fondation avait reçu des dizaines de millions d'euros d'une famille française qui avait voulu cacher en fait cet argent au fisc. En fait, cacher l'argent en le donnant à une fondation en disant au fond cet argent n'est plus à nous, on l'a donné à une fondation, donc il n'y a pas de raison que le fisc vienne nous embêter. Le problème étant que leur argent n'était pas seulement destiné à des causes généreuses, mais c'était aussi destiné à eux-mêmes et à continuer à avoir un train de vie, disons, plutôt confortable.
Ah oui, donc le truc, c'est un peu, je vous donne de l'argent, vous en gardez une bonne partie pour la fondation, et puis moi, je peux profiter du reste.
Oui, de fait, c'est ce qu'il s'est passé. Cette famille française avait légué 65 millions d'euros à cette fondation, mais ce n'est pas une donation à partir du moment où une partie de l'argent repart dans l'autre sens pour payer des dépenses personnelles des héritiers. Écoutez, l'un d'eux qui a pu profiter de ce système, il a accepté de raconter son histoire à condition de faire lire ses propos.
Dans les années 2016-2017, j'ai rencontré Géraldine Whittaker à 5 reprises, à Genève, à Paris, à Londres, et à chaque fois, mes billets d'avion étaient payés d'avance. Tout ça avait le vernis de la légalité, peut-être les thèses d'ailleurs. Et c'est quand on m'a proposé les cartes que j'ai trouvé ça pas très net. J'en ai eu 2, peut-être 3, peut-être 5, avec 5000 euros dessus. Et les voyages, on me disait que c'était des contributions de la fondation pour moi. Alors je suis allé à Boston, au Canada, en Europe, oui, pour des voyages en famille, je le reconnais, mais ça n'a pas duré très longtemps. Si j'avais su que c'était dans l'illégalité, je n'aurais pas pris des billets d'avion comme ça. J'étais pas très à l'aise avec ça. Et on me disait que si j'en parlais, j'aurais ensuite affaire à un inspecteur du fisc pour toute la vie. C'était des gens qui avaient intérêt à ce que tout reste dans le gris.
Oui, Géraldine Whittaker, donc la patronne de la fondation, ferait partie de ces gens qui avaient intérêt à ce que ça reste dans le gris. C'est ce qu'on entend en toile de fond. Mais elle en dit quoi, elle, de tout ça?
Son avocat français nous explique que la Britannique est avant tout une victime dans cette histoire, qu'on a abusé de sa faiblesse à un moment où elle était très malade pour utiliser son nom et le mettre en avant.
Bien, on n'ira pas plus loin donc sur le sujet. Maintenant, ce qui frappe aussi, et ce qu'on peut remarquer dans cette histoire, Abdelhak, c'est que Elin a finalement continué de fonctionner, hein, comme si de rien n'était, pendant des années, et ce, malgré tous les durcissements, on entendait Jérôme Cahuzac tout à l'heure, mais il y a eu des durcissements de réglementation.
Oui, mais ces dirigeants ont toujours été très vigilants. En analysant les données, on voit bien que leur but, c'est de ne jamais se retrouver dans le viseur du fisc, ou pire, de la justice française. Et pour ça, ils se tiennent régulièrement informés du moindre changement de législation concernant la lutte contre la fraude fiscale. En 2010, par exemple, Emmanuel De Croix envoie un mail à son frère Henri pour commenter un décret qui vient de paraître au sujet de la BNRDF, la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. En voici un extrait.
Ce décret démontre qu'il existe une volonté et des moyens accrus de la part des autorités françaises de récolter des renseignements sur des fraudes fiscales présumées. De nouvelles pressions sont faites sur ceux qui exercent notre profession, voyagent ou vivent en France et visitent leurs clients. En conclusion, il faut faire très attention à ce que l'on transporte en France. Peut-être vaut-il mieux porter des jeans qu'un costume de banquier.
Et on retrouve la même inquiétude après l'affaire Cahuzac. Une nouvelle réglementation entre en vigueur dès 2014 pour lutter contre la fraude fiscale. Et ce texte ne manque pas de faire réagir Henri De Croix après une discussion avec un avocat français. Il l'écrit dans l'un de ses mémos.
Notre avocat m'a fait une description assez effrayante de l'évolution législative en France. Il signale que certains points peuvent faire mal. Petit a, les peines sont accrues. Petit b, les intermédiaires sont directement visés. Petit c, si un groupe de personnes est attrapé, l'une d'elles peut avoir un accord d'immunité. En d'autres termes, le client peut s'en sortir et nous laisser dans les difficultés. Tout cela implique de notre part une grande rigueur.
Ouais, donc on continue tout en faisant, on l'entend, très attention. Sauf qu'un grain de sable est finalement venu gripper toute cette machine.
Oui, et ce grain de sable, c'est une personne chargée d'investir l'argent pour le compte d'Elin qui aurait pioché dans les avoirs des clients. La justice des Émirats s'en mêle, les fonds sont bloqués. Dans la foulée, 5 plaintes sont déposées en Suisse. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les clients du groupe, dont les Français, ne savent plus où est leur argent.
Oui, j'ajoute que chez nous, le parquet national financier enquête aussi. Mais et pour finir, Abdelhak, Henri De Croix, lui, l'homme qui est quand même au centre de tout ça, comment il justifie ce qu'on vient d'entendre?
Il explique qu'Elin fait de la gestion de fortune et pratique l'optimisation fiscale. Il concède que ça puisse être considéré comme immoral pour certains, mais pas illégal aux yeux de la loi. En tout cas, s'il y a eu de la fraude, ce qu'il n'exclut pas, il rejette la responsabilité sur d'autres membres du groupe Elin.
Et quelque chose me dit qu'on entendra encore parler de cette histoire. Merci en tout cas pour toutes ces explications, Abdelhak El Idrissi. Alors je précise qu'on peut réécouter votre enquête ou la lire sur franceinter.fr ainsi que sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter Investigation RF. Allez, restez avec nous. Lui aussi a travaillé dans la finance, mais en même temps, pour le renseignement, pour la DGSE. Il s'appelle Maxime Renaï et on le reçoit dans quelques instants.
For me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start, didn't know you were gone till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows alone. You could have been right there next to me, and I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Away from you, light years away from you.
On se laisse porter, hein. On croirait presque entendre Leonard Cohen en toile de fond. C'était Light Years, extrait du 8e album du groupe américain The National.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et on va maintenant continuer de parler de fraude fiscale avec un insider cette fois-ci. Bonjour Maxime Renaï.
Bonjour.
Vous avez travaillé dans la finance à Jersey et au Luxembourg et vous avez en même temps espionné vos employeurs pour le compte de la DGSE. Vous le racontez dans un livre qui s'intitule « Là où est l'argent ?». Alors peut-être pour commencer, expliquez-nous tout simplement, qu'est-ce que vous faisiez précisément sur l'île de Jersey ?
Donc en fait, je travaillais pour un cabinet d'avocats qui est toujours le plus gros cabinet d'avocats de l'île. Donc il y avait des centaines de salariés dans ce cabinet d'avocats. Et moi, je m'occupais de la partie administration, ce qu'on appelle administration de fonds. Voilà.
Donc vous gériez l'argent des autres.
Voilà. Je gérais pas, j'administrais. C'est-à-dire je faisais toute l'intendance un petit peu du fonds, si vous voulez.
L'administration. Oui. Alors, il faut dire qu'à Jersey, c'est 60% de la vie économique qui dépend du secteur de la finance. C'est assez énorme. Pour une petite île, on trouve combien ? 30 banques, 230 fonds d'investissement ?
Oui, alors c'est sans doute 60%, c'est peut-être beaucoup plus que ça en réalité, puisque toute l'économie tourne grâce à ça. Voilà.
Alors vous administrez donc ces fonds, et puis il y a un événement qui va être déterminant pour vous, c'est en 2007, c'est le rachat de Samsonite.
Oui, alors faut...
Samsonite, c'est les valises.
C'est les valises. Samsonite, c'est... En France, c'est le site d'Hénin-Beaumont qui a fermé avec des centaines de personnes qui se sont retrouvées à la rue. Et donc, en 2007, un de mes supérieurs qui se trouve juste à côté de moi, à 30 cm, signe les documents de rachat de Samsonite. Alors, c'est Mitt Romney qui s'est présenté ensuite plus tard aux élections aux États-Unis en 2012, qui fait une culbute, je ne sais plus exactement, mais je crois de 8 fois l'argent qu'il investit dans Samsonite. Donc, ça m'interpelle et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis décidé à rentrer en relation avec la DGSE.
Et très simplement, vous allez sur leur site internet, vous leur envoyez un courriel.
C'est ça. Donc, je reçois au bout de quelques semaines une lettre à Jersey qui m'est adressée en me demandant de remplir un CV, de leur envoyer un CV et une lettre de motivation. Je me dis, à l'époque, ça va être trop long. L'administration française est trop lente, il faut que j'aille plus vite. Donc j'ai regardé ensuite sur internet, j'ai essayé de chercher des numéros de téléphone et j'ai appelé tout simplement les états-majors à Paris.
Et là, on va vous recontacter et vous donner rendez-vous à Paris. Il y a un véritable jeu de piste qui va se dérouler.
Donc oui, il y a un jeu de piste qui s'instaure. On m'envoie plusieurs mails pendant une heure et en fait, on me fait circuler dans Paris, je pense, pour voir si j'étais suivi. Donc c'est un jeu de piste.
Oui, on vous donne rendez-vous dans un cybercafé dans le 18e.
Oui.
Et puis là, on vous fait comprendre qu'il faut que vous alliez dans un autre quartier. Donc, on vous fait circuler pour vous observer.
Oui.
C'est ce qu'on comprend.
Effectivement. Et aussi, sur la fin, donc le dernier rendez-vous, c'est devant Notre-Dame de Lorette. Et je vois, en sortant du métro, qu'il y a effectivement des personnes qui surveillent l'endroit et que je suis suivi. Voilà.
Alors, vous rencontrerez finalement un certain Luc, oui, qui va devenir votre contact, votre référent. Et vous allez travailler pour la DGSE. Alors, à partir de là, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous transmettez comme information de Jersey à la DGSE?
Alors, il y avait trois types de choses qui les intéressaient. Déjà, ils me donnaient une liste, qu'ils appellent la liste de courses, des choses extrêmement précises et très techniques. Ça peut être sur des oligarques russes, ça peut être sur des milliardaires américains, des entreprises, des multinationales étrangères ou des régulateurs européens. Ensuite, c'était... Tout ce que je pouvais trouver, j'avais carte blanche sur des informations qui pouvaient aider potentiellement à préserver les entreprises françaises. Et la troisième chose, c'était de trouver des profils de gens qui pouvaient intéresser tout simplement la DGSE, que la DGSE ensuite allait
recruter.
Ah, voilà.
Ouais. Alors vous faites comment? Vous photocopiez des documents? Vous récupérez des clés USB? Vous faites comment?
Alors c'est un ensemble de pratiques. Déjà au sein de Mourant, donc l'énorme cabinet d'avocats pour lequel je travaillais, c'est beaucoup de photocopies, énormément. Et ensuite, pour prendre les informations de toutes les autres dans les autres banques, les autres cabinets d'avocats de Lille, les fiduciaires, c'est tout simplement être le plus sociable possible, être invité en permanence à des soirées, dans les restaurants, dans les pubs, les boîtes de nuit. Et il faut savoir que Jersey est un monde extrêmement fermé, c'est une île. C'est, je dirais, des gens de 30 ans qui travaillent, qui sont célibataires sans enfants, qui sortent énormément. Et ben, ils vous donnent beaucoup d'informations que vous recoupez et que vous donnez ensuite à la DGSE.
Alors ça, c'est à Jersey. Oui. Ensuite, on va vous proposer un poste au Luxembourg.
Oui.
Vous allez y aller et vous continuez.
Oui, pareil. Je fais le même travail.
Vous dites que c'est encore plus facile qu'à Jersey.
Oui, parce qu'à Jersey, à la fin, disons la dernière année où j'y étais, il y avait beaucoup plus de procédures. Rien que pour rentrer dans les bureaux, il faut un pass, il y a des caméras qui sont installées, on est de plus en plus... Il y a une sécurité qui augmente de jour en jour. Alors qu'au Luxembourg, c'est beaucoup plus amateur en termes de sécurité.
Ce qui est quand même assez étonnant. Hein.
Oui, oui. En fait, c'est vrai que c'est un paradoxe, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les banques ou les cabinets d'avocats, pour beaucoup, sont assez mal organisés à l'intérieur. Alors, on a l'image extérieure que c'est lisse, que c'est, comme on a un beau bâtiment, un building, etc., avec des gens en costard. Et en réalité, c'est pas si bien administré et organisé à l'intérieur.
Alors, vous donnez quelques exemples. Par exemple, la France négocie des rafales en Inde.
Oui.
Et la DGSE veut connaître le montant des éventuelles rétrocommissions qui ont été proposées par les Anglais, eux, et leur circuit offshore, pour pouvoir proposer, nous, la France,
des rétrocommissions
au prix le plus juste possible.
Oui, là, c'est le genre de demande que je pouvais avoir. Donc, trouver le schéma de rétrocommission offshore ou qui passait par l'Inde, en l'espèce, essayer de trouver des ramifications pour que la DGSE fasse, enfin l'État ensuite puisse faire une meilleure offre.
Mais là, vous faites finalement ce que vous reprochiez à Mitt Romney, c'est-à-dire vous donnez à l'État français et à des sociétés multinationales françaises la possibilité d'offrir des commissions et de tricher sur des marchés.
Exactement, c'est pour ça que, suite à, je dirais, à ce type d'opération, il y a une sorte de frustration qui a grandi en moi en me disant que finalement, ça ne servait pas les intérêts de mes concitoyens, que ça servait d'autres multinationales et d'autres milliardaires français. Et donc, c'est pour ça que fin 2011, décembre 2011, j'ai quitté Luxembourg, et la finance et la DGSE pour aider directement, à mon sens, les salariés, les syndicats, groupes de salariés, pour les aider dans leur lutte.
Oui, vous devenez consultant pour les ONG, pour les syndicats. C'est ce que vous faites, d'ailleurs, c'est votre activité actuelle. Alors, l'enquête qu'on a diffusée tout à l'heure, juste avant que vous nous parliez, montre bien comment les structures qui pratiquent l'évasion fiscale s'adaptent en permanence. Vous qui avez travaillé au cœur de ces structures, est-ce que vous pensez qu'on peut s'attaquer à l'évasion fiscale ou que c'est un combat perdu d'avance? Autrement dit, ce que disent certains, c'est tant qu'il y aura des impôts, il y aura des fraudeurs, quoi.
Je pense que c'est avant tout politique. Je pense qu'on peut éviter vraiment l'évasion fiscale. Que c'est aussi à nous, en tant que citoyens ou en tant que groupement, ONG, association, de demander des comptes à l'État, à Bercy, aux multinationales, aux milliardaires. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas l'habitude de demander des comptes aux puissants. Là, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à le faire. Et je suis assez optimiste. Je pense que c'est la solution. C'est apprendre à demander des comptes et faire émerger des changements.
Bon, bah on va terminer cette émission sur une note d'optimisme. Merci Maxime Renaï. Alors, je précise que votre livre, qui s'appelle « Là où est l'argent », est publié aux éditions Les Arènes. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et la technique assurée par Patrick Henry et Paul Percheron. Dans quelques instants, regardez voir avec Brigitte Patient. En attendant, je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à dimanche prochain.